Est-ce que vous m'entendez bien au fond? Parce que des fois, c'est pas. Vous m'entendez bien, ça marche. Ça marche. Lorenzo, tu fais comme ça si ça baisse. Tu sais. C'est mon point faible. J'ai la voix qui baisse. Si tu peux. Qui peut éteindre? Abaisse, tu peux éteindre juste qu'on voit un tout petit peu mieux. Ça marche, merci. Jean-Baptiste est venu et on vous lit ça dans Matthieu, il dit repentez-vous. Car le royaume de Dieu est proche. Puis, quelque temps après, Jésus vient et il dit, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Message très proche. Et puis, dès le début de l'Église, Pierre s'adresse aux Juifs en acte 2 et il leur dit, repentez-vous. Et puis, en acte 17... La parole nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Et puis aux églises qu'on trouve dans l'Apocalypse, on a ces plusieurs versets, Apocalypse 2, 5, qui dit, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Deuxième église, il peut dire, repens-toi donc. Et que ce soit à des hommes qui ne le connaissent pas ou que ce soit à des églises, ou à ses enfants, Dieu leur dit parfois « Repens-toi ». Et donc ce matin, je vais vous parler de repentance. Ah, ce n'est pas un sujet forcément très, je ne sais pas comment dire, motivant. Ce n'est pas très fun, la repentance. En plus, c'est un nom un peu, enfin, je pense aux plus jeunes, c'est un nom qui fait un peu vieux, repentance. Ça sent la naphtaline. Non, ça ne vous fait pas penser à ça? Ils rigolent les jeunes, mais c'est vrai, ça fait un peu... Et pourtant, Dieu nous dit vraiment, et ce message est très très présent, vous trouverez une centaine de versets dans la parole qui parlent de repentance, en tout cas où le mot textuellement est cité. Elle concerne aussi bien ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui le connaissent, ses enfants. Alors j'ai juste, si tu veux, cliquer sur le suivant, pour que les jeunes ne partent pas. Je vous ai traduit ça d'une manière un peu plus moderne, parce que c'est un peu ça la repentance. C'est reconnaître ses torts pour repartir à zéro. C'est... The big change of ta life, je ne sais pas comment ils disent les jeunes. On ne se moque pas de moi, s'il vous plaît. Prendre un virage décisif. Il y a ces choses-là dans la repentance. Alors comme je suis un vieux, je vais vous parler de repentance, parce que moi, ça ne me perturbe pas ce mot-là, mais pour les jeunes, ça peut dire des choses comme ça. Et pour illustrer ça, je vous propose l'histoire, un exemple, à travers l'expérience de David. Et avant qu'on lise le texte, le contexte se trouve en 2 Samuel 11 et 12, où on voit comment David, le roi selon le cœur de Dieu, va se révéler adultère et meurtrier. Et donc le roi David, au lieu d'être avec ses troupes au combat, il est resté à Jérusalem et puis il se repose. Et il va voir Bathsheba, la femme d'Uri, et il va convoiter cette femme. Il va la prendre pour elle, coucher avec elle, et Bathsheba va être enceinte. Et donc David va faire le plan secret de faire mourir le mari de Bathsheba, Uri, par un stratagème où ils vont le placer à l'avant des troupes. Et donc voici le roi David qui est à la fois adultère, meurtrier... Et sa conscience ne le reprend pas. Alors Dieu, dans sa grâce, va lui envoyer Nathan, un prophète, qui va lui expliquer cette situation par une parabole. Il va lui parler d'un pauvre qui a une seule brebis, qui est tout pour elle, et puis un riche qui, parce qu'il doit préparer un repas, va prendre la brebis du pauvre, alors que lui en a tellement. Et donc David est rempli de colère quand il entend cette parole. Et donc il dit, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela est digne de mort. Alors Nathan lui dit, tu es cet homme. Et Dieu lui parle comme ça, tu es cet homme. Et aussitôt David répond, j'ai péché. Alors on va lire si tu veux, on va lire le psaume 51. Qui nous parle de ce que va dire David. Psaume 51, et vous voyez le verset 2 qui nous dit « Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. » Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint, rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu du sacrifice, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un esprit brisé et contrit. Répands ta grâce, tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréas des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Et je propose qu'on regarde ce psaume et juste qu'on le regarde un peu dans le détail pour découvrir, pour voir ce que c'est que la repentance. Et la première chose qu'on voit dans ce texte, tu vas avancer. La première chose qu'on voit, c'est que, on le voit à travers ce texte, ça transpire de ce texte, David est triste. David est profondément triste de son péché. Il parle à la fin d'un esprit, d'un cœur brisé et contrit, d'un esprit brisé, et ça se voit dans toute la manière dont il s'exprime à Dieu. Et il est comme, obnubilé par son péché, vraiment triste. C'est ce que la parole appelle la tristesse selon Dieu. Et on trouve ça dans 2 Corinthiens, au chapitre 7. Et au verset 9. Je me réjouis, et c'est Paul qui parle, je me réjouis non de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. David est vraiment attristé de ce qu'il a fait, et pendant longtemps, il a comme ignoré son péché. Et puis finalement, lorsque Nathan lui parle, il est vraiment attristé de cela. Et vous avez deux formes de tristesse. Une tristesse, celle qui est celle de Judas, par exemple. Judas a eu des remords, mais il s'est pendu. Et puis vous avez Pierre qui a renié son Seigneur, qui était triste, mais ça l'a amené à la repentance. Et puis, après avoir pleuré amèrement, finalement, il a été restauré. Alors, être triste peut être parfois très très positif. On est dans un monde où il ne faudrait pas être triste, où il faudrait être joyeux comme étant quelque part la panacée. Eh bien, parfois être triste, c'est très très positif parce que ça nous conduit à reconnaître notre égarement, nos erreurs, notre péché. Deuxième point que je veux souligner, en fait, il est précis. En fait, il va utiliser trois termes. Il ne dit pas simplement « j'ai péché », il va parler de transgression, d'iniquité et de péché, pour reprendre les termes des versets 4, 5 et 6, qui chaque fois sont assez proches, mais quand on parle de transgression, c'est « j'ai transgressé la loi divine, j'ai désobéi ». Quand on parle d'iniquité, on parle plutôt de souillure, d'impureté, quelque part. Et voilà, donc il est quand même précis sur son péché. Et lorsque Dieu nous pousse à la repentance, on a besoin de préciser notre péché. Alors là, on parle du péché de David, on parle de meurtre et on parle d'adultère. Alors évidemment, ça peut paraître monstrueux. Je suis convaincu que si vous laissez l'Esprit de Dieu vous sonder, et c'est ce qu'on fera tout à l'heure, je suis convaincu que vous allez trouver finalement pas mal de péchés. Peut-être c'est de l'orgueil, de se croire supérieur aux autres. Peut-être c'est cet égocentrisme qui dit d'abord moi, moi d'abord. Peu importe les autres, c'est moi qui compte. C'est mon plaisir, c'est moi d'abord. Faut qu'on me respecte, faut qu'on m'écoute, c'est moi, toujours moi. C'est peut-être le jugement des autres. Troisième point que je veux souligner, c'est que il assume son péché. Il se dit « je suis responsable ». Si vous lisez le texte, c'est « j'ai péché, je reconnais mon péché ». Enfin, c'est le sien. Lorsque, à la chute, Adam a tout de suite rejeté la faute sur Dieu qui lui avait mis la femme, et puis la femme a tout de suite rejeté la faute sur le serpent, c'est toujours quelqu'un d'autre. Et mon cœur est souvent comme ça, à chercher des excuses, ou des justifications. Si j'ai fait ça, c'est parce que finalement, c'est pas vraiment de ma faute, c'est parce que les autres m'ont poussé à... Mais c'est pas moi. C'est pas David dit non. Je suis responsable. C'est mon péché. Verset 6. Et ça peut surprendre, mais il commence par dire « J'ai péché contre toi seul ». Il a juste commis un meurtre. Enfin, je veux dire, le péché, il est quand même contre Uri, contre Bathsheba, etc. Mais il commence par dire « j'ai péché contre toi seul ». Et je pense que c'est important de comprendre que, avant toute chose, nos péchés sont d'abord une offense à Dieu. Certes, c'est un crime et un péché contre les hommes, mais d'abord contre Dieu. Et David l'exprime bien. Continue. Non, mais non, change pas, t'es bien. T'es bien. Fin du verset 6. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il reconnaît sa faute, il dit c'est la mienne. Mais en plus, il dit ton jugement sera juste. Tu peux me juger. J'ai pas de reproche à te faire. Il plaide coupable, et en plus il dit que voilà, tu peux juger, j'accepte par avance ton jugement. Il n'y a pas d'argumentation, il n'y a pas de défense. Il dit je suis coupable, je plaide coupable, tu seras juste. Ne cherche pas à trouver des circonstances atténuantes. Ton jugement sera mérité. Si tu veux avancer, si vous allez un tout petit peu plus loin, au verset 7, au-delà de l'acte qu'il a commis, au-delà de cet adultère et ce meurtre, il dit « Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. » Quelque part, au-delà de l'acte qu'il a commis, au-delà d'un péché, ce qu'il reconnaît, c'est que c'est en lui, c'est sa nature en fait. Il ne dit pas « Oups, je me suis trompé, désolé, pour une fois j'ai... » Non, non, il dit « c'est dans mon cœur. » Là, ça s'est manifesté comme ça, mais ça se manifesterait d'une autre manière. Le mal est plus grave que simplement mon péché, c'est en moi. C'est ma nature. Et puis il continue en verset 9. Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Il va faire appel à la grâce de Dieu pour être lavé, purifié. Il ne place aucun espoir en lui-même. Et verset 11, efface toutes mes iniquités. Et donc, il fait appel à la grâce de Dieu. On a chanté cette grâce ce matin. Mais là aussi, il va plus loin. De la même manière qu'il a reconnu que non seulement il avait péché, mais que c'était sa nature. Il va demander grâce pour ce péché et aussi demander être changé. Verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Dans la repentance, il y a le désir de vraiment changer. On est triste de ce qu'on a fait, mais on veut ne plus recommencer. On veut changer pour Dieu. Et pas que pour cet acte, pas que d'être pardonné. On veut être transformé. Et puis, un dernier point sur la repentance, c'est que on a commencé par la tristesse, mais ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est la joie et l'adoration. Verset 14, « Rends-moi la joie de ton salut. » Verset 17, « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. » Si quelque part tout ce qu'on a lu est assez triste pour l'instant, c'est vraiment pas le sens de la repentance. Le sens de la repentance, c'est un chemin de joie, mais qui commence dans la tristesse et dans les pleurs. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. J'ai essayé de résumer ça, histoire que vous regardiez un petit schéma simple de la repentance. Premièrement, le mot grec, c'est métanoïa, qui veut dire, alors c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs idées, qui veut dire changement de mentalité, changement de direction, issu de la conviction qu'on s'est trompé et la décision de changer. Il y a ces deux-là. Il y a de la tristesse parce qu'on s'est trompé, mais vraiment le désir de changer. Et je vous l'ai fait sous ce petit symbole de V, comme ça. La première chose, c'est que pour commencer un chemin de repentance, il faut l'action du Saint-Esprit. Et dans l'histoire de David, quelque part, Nathan est ce symbole du Saint-Esprit qui vient dire « Tu es cet homme. » Et dans nos vies, je peux désirer être saint, mais c'est l'Esprit-Saint qui va me montrer les choses, qui va placer la lumière dans mon cœur. On voit cette vraie tristesse d'être pécheur, d'avoir commis ce péché et accepter le jugement mérité de Dieu. Là, on est sur l'acte commis, mais plus loin, il y a la reconnaissance que c'est ma nature et qu'en plus, je ne peux pas changer. Tout seul, je m'en sors pas. Alors, je fais appel à Dieu, à sa grâce. Je fais appel à son pardon pour l'acte que j'ai commis. Et puis, j'ai le désir de changer, de ne pas retomber. Et je place ma foi, ma confiance en Dieu qui va changer mon cœur. Alors, de la tristesse du départ, j'aboutis à la joie. Si tu veux avancer, certains vont me dire, mais est-ce que ça me concerne? Moi, je suis un enfant de Dieu, je suis pardonné. Est-ce que vraiment je suis appelé à me repentir aussi? Est-ce que ça concerne que ceux qui ne connaissent pas Dieu? En fait, ça concerne les deux. Ça concerne tout le monde. Ce qui est vrai, c'est que lorsque j'ai confessé une fois pour toutes mes péchés, Dieu m'a pardonné et je suis, comme dit la parole, déclaré juste pour l'éternité. Tous mes péchés, qu'ils soient passés, présents et futurs, sont pardonnés. Mais c'est un pardon que je peux dire, un pardon de position. De la manière qu'il est dit, vous êtes assis dans les lieux célestes. C'est une position, c'est comme judiciairement je suis pardonné. Par contre, j'ai ma marche de tous les jours avec mon Dieu. Et Dieu va dans ma marche me montrer les péchés, mes erreurs, et quelque part, il me demande de les confesser pour retrouver ce que je vais appeler un pardon familial, un pardon avec mon père, un pardon relationnel qui va purifier ma conscience. Et on va lire en 1 Jean 1 au chapitre 1er, 3 versets à partir du verset 8, 1er épître de Jean, chapitre 1er, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Et donc il y a un appel ici pour ceux qui ne le connaissent pas, à faire ce pas initial de se reconnaître pécheur rebelle contre Dieu et de demander grâce. Mais pour tous ceux qui le connaissent, il y a cette démarche habituelle de reconnaître son péché, celui que l'Esprit nous montre, et désirer changer. Pour illustrer ça, en Jean 13, on ne va pas le lire pour ne pas aller trop loin dans le temps, mais en Jean 13, lorsque notre Seigneur va laver les pieds de ses disciples, Pierre ne veut pas que Jésus lui lave les pieds. Et donc le Seigneur va comparer et lui dire « Mais vous êtes déjà pur parce que vous avez été baigné. » Ça veut dire « Vous avez été purifié de tous vos péchés. » Et puis, par contre, tu as besoin de te laver les pieds quotidiennement. Tu as besoin du pardon de tes péchés au quotidien, pour retrouver cette communion avec moi. Reste là. Juste deux points, j'ai déjà dit, mais la repentance, ce n'est pas les remords. Ce n'est pas rester dans cette tristesse qui peut nous plonger dans une voie sans issue, qui mène au désespoir, qui nous bloque dans notre culpabilité. Ce n'est pas du tout ça, la repentance. Ça commence par la tristesse, mais ça finit par la joie. Et puis on peut aussi, une autre chose que la repentance n'est pas, c'est on pourrait être vraiment sensible à son péché et quelque part, j'allais dire, se détester pour son péché, se haïr soi-même pour son péché, parce qu'on est incapable de mener une vie sainte. Et on pourrait vraiment être bloqué là-dedans et porter une culpabilité, et rester dans cette culpabilité. Ce qu'on a vu, c'est que Dieu nous pardonne. Et que si je confesse mon péché, Dieu me pardonne. Alors si Dieu me pardonne, peut-être que j'ai aussi parfois à me pardonner. Et à fermer la porte que Dieu a fermée. Je vais continuer avec un aspect très pratique. Une illustration un peu originale, mais qui me trouve assez pertinente. Qui connaît ce sigle ? Est-ce que certains le connaissent ? C'est le sigle des alcooliques anonymes. Est-ce que tu veux cliquer ? Hop ! C'est le sigle des alcooliques anonymes, qui est une organisation nullement chrétienne, qui a été créée en 1935, et durant ce mouvement, qui est un mouvement assez important, il a basé leur méthode sur 7 et 12 étapes. Pourquoi j'ai dit 7 12 étapes ? Vous voyez, les 12 étapes et les 12 traditions. Et dans cette méthode, il y a 12 étapes. Et je vous propose de lire ces 12 étapes, ça va vous surprendre. Mais parce que, de manière assez étonnante, pour moi, ces 12 étapes, c'est une démarche de repentance où, dans le texte qu'on va lire, quelque part, vous pouvez remplacer alcool par péché, et lorsque parfois il est parlé de Dieu ou de puissance supérieure, mettez-y le mot Jésus-Christ. Et quand on va lire ce texte, en tout cas moi il me parle, donc j'espère qu'il vous parlera. Alors je juste fais une petite parenthèse pour pas qu'il y ait de... Là, je ne fais pas de publicité particulière pour les alcooliques anonymes, je ne place pas cela au même niveau que la parole de Dieu, enfin voilà. C'est juste une illustration, n'allez pas y voir plus que cela. Néanmoins, J'espère que ce texte vous touchera comme moi il m'a touché. Et je vais chaque fois l'appliquer. Donc le texte que je vais afficher, c'est vraiment le texte, les 12 étapes des Alcooliques Anonymes, et qui est encore applicable aujourd'hui. Si vous y allez, vous aurez ce petit papier-là. Enfin, c'était une petite cartonnette. Moi, il y a 2-3 ans, j'avais récupéré ça. Et cette démarche vraiment étonnante. Et je vais chaque fois la transposer pour nous. Si tu veux afficher. La première étape, nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool et que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Je veux le traduire pour nous, que nous étions impuissants par rapport au péché et que nous avions perdu la maîtrise de nos vies étant devenus esclaves. Et si dans la salle il y a des gens qui ne sont pas enfants de Dieu, peut-être c'est ce qu'ils vivent. Le fait d'avoir perdu la maîtrise de leur vie, de se sentir impuissant, à maîtriser leur vie. Deuxième étape, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. C'est évident que moi je vais mettre à la place de puissance supérieure à nous-mêmes, Dieu. Nous en sommes venus à croire, notez ce mot, croire. Je crois qu'il y a un Dieu qui peut me rendre la raison, qui peut me sauver, qui peut me purifier, comme dit David. Troisième étape, nous avons décidé de confier notre volonté et nos vies aux soins de Dieu, tel que nous le concevions. Confier notre volonté et nos vies aux soins de Dieu. David s'est confié à Dieu après avoir reconnu son péché. Quatrième et cinquième étape, nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain la nature exacte de nos torts. Le texte est celui des alcooliques anonymes, je n'ai pas changé, c'est bien Dieu qui a dans le texte. Comme David, est-ce que nous avons avoué à Dieu nos torts et nos péchés ? Si tu veux avancer. Sixième et septième étape, nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu éliminât tous ses défauts de caractère. Nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos déficiences. Il y a dans ce texte le fait que on demande à Dieu, on n'a pas la force de le faire. Donc je suis prêt à ce que Dieu le fasse. Purifie-moi. Et là on parle de défauts de caractère, de déficiences. Huitième et neuvième point, j'en ai pas parlé, mais nous avons dressé la liste de toutes les personnes que nous avions lésées et nous avons consenti à leur faire amende honorable. Nous avons réparé nos torts directement vers ces personnes dans la mesure du possible, sauf lorsque ce faisant nous risquions de leur nuire ou de nuire à d'autres. J'en ai pas parlé, mais il y a le désir de réparer ces torts qu'on a faits. Je continue. Ah, je me suis trompé de numéro, mais peu importe. Là, c'est 10 et 11, 10, 11 et 12. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts dès que nous nous en sommes aperçus. Dans notre vie d'enfant de Dieu, jour après jour, l'Esprit de Dieu va vous montrer les choses. Et quelque part, ce qui est important, c'est que dès que l'Esprit nous montre, on puisse, dès qu'on s'en rend compte, demander pardon pour retrouver cette communion. Onzième étape, nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu, tel que nous le concevions, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. Dans un chemin de repentance, il y a vraiment le désir de changer et de ne plus retomber, et donc d'être à la gloire, de qu'on ait une vie qui soit à sa gloire. Et dans ces étapes, il parle de prière et méditation. Je crois que pour nous, on peut s'appliquer quasiment directement par la prière et la méditation de la parole de Dieu, améliorer notre intimité avec Dieu. Une fois de plus, c'est le texte des Alcooliques Anonymes. Je ne l'ai pas traduit là. Douzième étape, ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, Nous avons alors essayé de transmettre ce message à d'autres alcooliques et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie. En langage biblique, ça s'appelle témoigner, simplement. C'est juste, désirer transmettre ce message de vie et de libération. Voilà, je ne veux pas aller plus loin. J'espère que ça vous aura étonnant, ce texte, qui n'est nullement biblique chrétien, mais qui a une vraie résonance d'un chemin de repentance qui reconnaît que, pour ceux qui sont quelque part dans l'alcoolisme, le chemin, c'est un chemin de reconnaissance, de repentance, de reconnaissance de cet égarement, et que le salut, quelque part, n'est qu'en Dieu, et que je ne peux m'en sortir moi-même. Si tu veux avancer, et je vais terminer parce qu'il est déjà tard. Est-ce que ça a une résonance pour nous collectivement? Est-ce qu'on peut parler de repentance d'Église? On ne va pas le lire, mais je vous invite à le faire. Un très beau passage de Néhémie 8 et 9, où vous avez un très beau réveil du peuple d'Israël sous la direction de Néhémie et Esdras, et notamment au chapitre 9, au verset 2 et 3, on voit qu'on va lire devant tout le peuple la loi de l'Éternel pendant un quart de journée. Alors je vous le fais, on va dire comme ça, 3-4 heures. On a juste lu la Bible pendant 3-4 heures, peu de choses. Et puis derrière, pendant 4 heures, ou 3-4 heures, un quart de journée, le peuple confessèrent leurs péchés. 3-4 heures de confession en Église. Le peuple reconnaît son égarement, son péché contre Dieu. Et puis le chapitre suivant, le peuple fait alliance à nouveau avec Dieu, renouvelle l'alliance avec lui, se réengage avec Dieu. De tout temps, les chrétiens souhaitent qu'il y ait des réveils dans les églises, que les églises se réveillent et que l'Esprit soit là. Et c'est juste, je ne dis surtout pas ça, on est d'accord. Et quand vous étudiez l'histoire des réveils, quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup lu ça parce que ça m'interpellait. Et vous voyez que dans beaucoup de réveils, ça a très souvent, très très souvent commencé par une prise de conscience du péché qu'il y avait dans l'Église. Ça a très souvent commencé par un temps de larmes et de repentance avant que Dieu ne répande et ne fasse des choses merveilleuses. Et je prie que, quelque part, par son esprit, en nous individuellement, mais en nous collectivement, puisse faire ce travail de nous montrer par sa lumière là où il y a des choses à changer, là où il y a des choses à demander pardon. Si tu veux terminer. Alors, on a lu l'histoire de David qui s'est repenti de son péché, mais quelque part, la repentance, c'est pas une méthode. Je ne vais pas l'appliquer comme ça. Je ne vais pas dire, OK, cet après-midi, je vais me repentir. C'est un chemin, parce que c'est poussé par l'esprit qu'on va voir les choses et qu'on va vivre une vraie repentance. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est de demander à Dieu de sonder nos cœurs et de nous montrer ce qu'on ne voit pas. Parce qu'on peut très bien, et on a vu que David est resté longtemps jusqu'à ce que Nathan vienne, il était juste meurtrier adultère et vivait bien comme ça. Enfin, je ne sais pas s'il vivait bien comme ça. En tout cas, il n'avait pas fait cette étape importante de confesser ça à Dieu. Il a vécu avec ça jusqu'à ce que Nathan, symbole de l'esprit, lui dise « Tu es cet homme ». Et donc voilà, ce extrait du psaume 133, et quelque part je voudrais conclure comme ça, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Je vais prier.